Luc est médecin de profession, mais en ce qui nous concerne, un historien hors pair. Il introduit et enracine les ministères de Jean-Baptiste et du Christ dans l'histoire profane de son époque. Tibère est alors l'empereur mégalomaniaque. Ponce Pilate, quant à lui, fut nommé gouverneur ou plutôt préfet de la Judée, où se situe Jérusalem, à partir de l'an 26 et exerça sa fonction jusqu'en 36. Il s'opposait généralement aux Juifs qu'il méprisait. Selon l'historien hébreu Flavius Joseph, Pilate a versé beaucoup de sang juif en Judée et en Samarie, la province au nord de celle-ci. En bon despote, il aurait aussi puisé dans le trésor du temple. Pourquoi pas? Hérode Antipas, qui est mentionné par Luc, est celui qui élimina Jean-Baptiste. Il régna de l'an 4 avant Jésus-Christ à l'an 39. Son royaume était sous la botte de Rome. Je continue le texte avec d'autres noms qui situent l'histoire de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Verset 2 du chapitre 3. Les Juifs ne reconnaissaient qu'un souverain sacrificateur qui exerçait sa fonction à vie. Anne fut le grand prêtre de l'an 6 avant Jésus-Christ à l'an 15. Puis, il fut destitué de cet office par le gouverneur romain Pilate. Son gendre Caïphe fut désigné à sa place, mais les Juifs continuèrent à considérer Anne comme légitime, et c'est pourquoi les deux noms sont cités par Luc. C'est dans ces circonstances que Jean-Baptiste apparaît sur scène. Normalement, il aurait dû devenir prêtre et servir dans le temple comme son père Zacharie. Mais il reçut un appel de Dieu particulier et commença une vie d'ermite dans le désert, à l'exemple d'Élie, un fameux prophète de l'Ancien Testament. Je continue. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Verset 3. Jean-Baptiste débute ici un ministère prophétique dans la tradition de l'Ancien Testament. Personnage pittoresque, mâle ou pas rasé, négligé, vêtu de poils de chameau, il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Il n'a rien pour plaire et son message rébarbatif n'est pas du genre populaire. Son rôle est l'appel à la repentance de tous les Juifs afin de les préparer à la venue du Messie. Il invite tous ses auditeurs à se détourner de la voie du mal qu'ils suivent pour la plupart pour adhérer pleinement à l'observation de la loi, surtout au niveau moral. Pour ce qui est du rituel, il n'y en avait que trop, en particulier de la part des religieux. Le baptême d'eau ne purifiait personne, comme la suite le montrera. Je continue. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites. Les chemins rocailleux seront nivelés. Et tous les hommes verront le salut de Dieu. Versets 4 à 6. Cette citation éclaire le ministère de Jean-Baptiste. Il s'agit pour lui de préparer l'intervention de Dieu lui-même en faveur de son peuple par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel. Lorsqu'un roi voyageait dans le désert, des serviteurs le précédaient pour aplanir le chemin et enlever tout ce qui pouvait l'encombrer, afin de rendre le voyage du roi le plus agréable possible. C'est un peu comme quand on joue aux boules, surtout à la façon lyonnaise. On enlève tous les gratons pour que ça roule bien. Dans la citation du prophète, l'aplanissement en vue est une expression imagée dans laquelle le chemin désigne le cœur des auditeurs. Un nombre d'entre eux furent ainsi préparés intérieurement à accueillir le message de Jésus. Luc cite plus longuement le texte d'Ésaïe lorsqu'il dit « Et tous les hommes verront le salut de Dieu ». Il rappelle de cette manière la portée universelle du salut parce qu'il écrit d'abord pour les Grecs, c'est-à-dire les non-juifs. Je continue le texte. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham !» Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 7 à 9. Jean-Baptiste n'était pas un pied tendre. Il s'adresse au peuple avec une grande sévérité et les place devant les dures réalités spirituelles de la vie. Il y a une colère à venir qui n'épargnera personne, pas même les descendants d'Abraham. À l'époque du Nouveau Testament, les arbres qui ne portaient pas quelque chose d'utile étaient considérés comme superflus, abattus et brûlés. Il en sera de même de toute personne qui ne porte pas les fruits de l'obéissance à Dieu telle qu'elle est amplement décrite dans la loi de Moïse. Je continue. Les foules lui demandèrent alors « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit. « Si quelqu'un a de tunique, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Verset 10 à 11. Sous l'Ancienne Alliance, une personne démontrait sa repentance par des manifestations externes. Par exemple, en donnant généreusement de son surplus des nécessités de la vie. La tunique ressemblait à une grande chemise et les gens qui en avaient plus d'une, en portait souvent deux. Je continue. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ? » « N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, » leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi, « Et nous, que devons-nous faire ? » « N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. » « Contentez-vous de votre solde !» Versets 12 à 14. Les collecteurs d'impôts étaient à la solde de l'occupant romain. C'étaient des collabos, en somme, et qui, de plus, tiraient grand profit de leur position en exigeant davantage que ce qui était requis. Ces soldats, qui apparaissent ici, sont soit romains, soit au service du roi Hérode. Ils avaient une forte tendance à user de la force pour extorquer le peuple. Bien sûr, ces deux groupes étaient profondément méprisés par les Juifs. Le message de Jean-Baptiste était des plus pratiques. Mais il faut se souvenir que cette attitude droite qu'il prônait n'était qu'une préparation au salut véritable que le Messie allait apporter. Alors que Jean-Baptiste demandait à ses auditeurs une manifestation extérieure de la repentance, Jésus exigeait de ses disciples une attitude intérieure irréprochable. En soi, une bonne conduite, bien que recommandable, ne va jamais gagner le paradis à quiconque, car le bien que je fais aujourd'hui n'efface pas le mal que j'ai commis hier. Seul le sang du Christ sur la croix peut effacer mes fautes. Je continue. Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Il répondit à tous, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. » Versets 15 à 17. La foule commence à se demander si Jean-Baptiste n'est pas le Messie. Alors, il établit une distinction entre son baptême d'eau et celui du Christ, qui sera du Saint-Esprit et de feu. L'œuvre de l'Esprit s'accomplit lors de la Pentecôte, lorsque les disciples furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à prêcher dans les langues de tous les peuples qui étaient rassemblés à Jérusalem pour la fête de Pâques. Le baptême de feu est un jugement qui va commencer à s'accomplir lors du ministère de Jésus sur terre et qui trouve son apogée à la fin des temps lors de son retour glorieux tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Je continue. Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle. Mais il reprocha au gouverneur Hérode d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son demi-frère, et d'avoir commis beaucoup d'autres méfaits. Hérode ajouta encore à tous ses crimes celui de faire emprisonner Jean. Versets 18 à 20. Hérode Antipas vivait avec sa belle-sœur, qui avait quitté Hérode Philippe, son mari. La famille des Hérodes sont cités dans la Gazette du coin pour une sombre affaire de mœurs, somme toute banale. Le tyran numéro 1 se démarque en emprisonnant Jean-Baptiste. Je continue. Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Versets 21-22. Luc n'essaye pas de présenter les événements dans leur ordre chronologique. Par contre, il donne les détails qui lui sont spécifiques. Ainsi, il est le seul des évangélistes à mentionner que Jésus était en prière lorsque le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. C'est d'ailleurs à cause de cet événement que cet oiseau est devenu l'emblème de la paix. En écrivant que le ciel s'ouvrit, Luc souligne par là que Dieu entrait dans l'histoire humaine avec une révélation fracassante par laquelle il déclarait souverainement que Jésus était son Fils. La Trinité divine se révéla au baptême du Christ. Dieu le Père parle à Dieu le Fils sur lequel descend Dieu le Saint-Esprit. Je continue le texte. Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Il était, comme on le pensait, le fils de Joseph, dont voici les ancêtres. Verset 23. Jésus a commencé son œuvre terrestre en l'an 29 de notre ère. L'expression « environ 30 ans » indique qu'il avait la maturité requise pour remplir un ministère. C'est en effet à cet âge que ceux qui étaient appelés à servir dans une capacité importante commençaient à l'exercer. Il en fut ainsi de Joseph lorsqu'il entra au service du Pharaon, ce qui est raconté dans le livre de la Genèse. David aussi avait 30 ans quand il devint roi. Et c'est pareil pour tous les Lévites, c'est-à-dire ceux dont le rôle est d'assurer le bon fonctionnement du temple. Le reste du chapitre est consacré à une généalogie, a priori une longue liste barbante de 76 noms. En fait, en y regardant de plus près, c'est presque intéressant. Luc fait du chassé-croisé. Il commence par une phrase ambivalente qui est « Jésus était, comme on le pensait, le fils de Joseph, dont voici les ancêtres. » Puis il cite quelqu'un du nom de Élie. Luc nous dit premièrement que c'est une opinion erronée que Jésus est fils de Joseph du point de vue biologique. Par contre, il est bien son fils juridiquement et donc, par lui, descendant de David, l'ancêtre royal par excellence. Mais après avoir cité le nom de Joseph, il remonte à un dénommé Élie, qui n'a rien à voir avec Joseph, puisque c'est le papa de Marie. Je me résume. Luc va de Jésus à Joseph, son père adoptif, au père de Marie, qui s'appelle Élie. C'est ça que j'appelle un chassé-croisé. Le reste du chapitre est maintenant consacré à la généalogie de la mère du Christ. Luc continue en remontant jusqu'au roi David, en passant par un de ses fils qui s'appelle Nathan. Donc, si je peux me permettre un petit abus de langage, le sang de David coulait dans les veines de Marie et donc de Jésus. Matthieu aussi, dans son évangile, donne la généalogie du Christ. Mais lui, il remonte à David en passant par le roi Salomon, un autre fils de David et demi-frère de Nathan que mentionne Luc. Matthieu commence par Abraham, le premier juif pour ainsi dire, et donne la ligne royale, légale, qui descend jusqu'à Joseph. La généalogie présentée par Luc est inversée par rapport à Matthieu et commence par Jésus, puis le papa de Marie, pour remonter jusqu'à Adam, puis à Dieu lui-même. Luc nous donne la lignée des ancêtres de Marie, je le rappelle. Il ressort de tout cela, d'une part, que Jésus est de la lignée de David, à la fois par Joseph, son père adoptif, et par Marie, sa mère. D'un côté, il est l'héritier légal au royaume, et de l'autre, par Marie, il y a droit physiquement. D'autre part, fidèle à lui-même, Luc se soucie des païens. En effet, la généalogie qu'il nous donne ne s'arrête pas à Abraham, comme celle de Matthieu. Elle continue au-delà, vers le haut, en passant par tous ses ancêtres jusqu'à Adam, le premier homme. En agissant ainsi, Luc inclut toute une lignée de non-juifs. C'est sa façon de souligner, une fois encore, que l'offre de salut est universelle. Jésus est venu pour toute l'humanité, pas seulement pour les Israélites. Ça suffit comme détail et je vous fais grâce de la liste des 76 noms. Nous voilà donc placés devant le chapitre 4 de l'évangile de Luc, dans lequel l'auteur reprend le récit de la préparation de Jésus à son ministère tout de suite après son baptême. Il va d'abord être question de la tentation du Christ par le diable, un épisode également mentionné par Matthieu et Marc. Je rappelle que Luc a présenté Jésus en tant que descendant d'Adam, ce qui l'a fait remonter jusqu'au début de la race humaine. Il est le fils de l'homme par excellence et il va devoir faire ses armes, faire ses preuves en quelque sorte, en confrontant Satan, celui qui a fait chuter nos premiers parents dans le jardin d'Éden, le paradis perdu. Jésus a dû faire face aux puissances des ténèbres, aux problèmes et mystères fondamentaux qu'est le mal. Je commence à lire. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés, il eut faim. Verset 1 à 2. Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est exactement passé pendant tout ce temps qu'a duré la tentation, ni sous quelle forme le diable est apparu à Jésus. Aucun texte ne donne une réponse à ces questions. L'histoire commence au bout de cette période de 40 jours. Ce nombre correspond à celui de l'épreuve. Ainsi, Israël marcha dans le désert pendant 40 ans. La première chose que le récit nous apprend est que le Seigneur en tant qu'homme a engagé la bataille en étant rempli du Saint-Esprit. Luc insiste tout particulièrement sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cadre du ministère de Jésus. Ainsi, c'est sous son contrôle que le Christ va affronter le diable, l'ennemi de l'homme par excellence, et vaincre cet adversaire. C'est aussi sous sa direction qu'il va s'introduire en territoire ennemi dans le désert pour y être mis à l'épreuve. La tradition situe ce lieu dans une contrée aride au nord-ouest de la mer Morte. C'est encore rempli de la puissance du Saint-Esprit qu'il va commencer son ministère en Galilée, ce que dit le texte un peu plus loin. C'est encore le Saint-Esprit qui explique l'autorité de son enseignement, son pouvoir sur les démons, ainsi que les guérisons qu'il fait. Jésus se soumet continuellement à sa direction et agit en harmonie avec ses intentions tout au long de son pèlerinage terrestre. L'apôtre Paul exhorte les premiers chrétiens à suivre l'exemple du Christ lorsqu'il écrit « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » Fin de citation. Voilà une bonne parole qui mérite réflexion et sur laquelle je terminerai pour aujourd'hui.